Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Canal FM.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes toujours très ravis quand nous vous savons très nombreux à l'écoute de cette émission Club de la Presse. Un premier meeting contre la nouvelle constitution. Les forces vives de l'opposition se sont retrouvées hier dimanche à Kassimé, à Ranoukopé, pour exprimer leur contestation face à la nouvelle constitution. La constitution, bien sûr, à l'heure du 6 mai 2024, tour à tour, les leaders politiques et organisations de la société civile ont dénoncé ce qu'ils qualifient de coup d'État constitutionnel. Au même moment, le gouvernement lance une campagne nationale de sensibilisation à la nouvelle gouvernance de la 5e République. Le lancement a été effectué le vendredi 21 mars à Accra et c'est autour du thème Découvrir, vivre et s'engager pour la 5e République. L'initiative portée par le ministère en charge alors des droits de l'homme vise à tenir les citoyens au fait des récentes réformes institutionnelles. Et nous allons en parler dans cette émission. Nous aborderons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Victor Betomega est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Merci fraternel à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Neho, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaan. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. Mais nous abordons toujours ces sujets avec nos confrères journalistes en studio avec moi. L'équipe de lundi se met déjà en place. Jacques Dakouti, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Je voudrais une fois encore saluer nos compatriotes qui sont à l'écoute. Et ceux de là également de la diaspora, et saluer nos auditeurs et auditrices, ceux qui nous écoutent actuellement dans leur bureau, certains sont dans les taxis, d'autres devant leur étalage, d'autres au marché, et peut-être certains sont sur les lieux des hôpitaux qui sont en train de nous écouter. Et je voudrais saluer chacun et chacune, et pour ceux qui sont malades, je voudrais souhaiter prendre guérison à tous ceux qui sont malades, tous ceux qui traversent des moments difficiles dans leur vie actuellement. Je demande à Dieu de les soutenir, de les assister par rapport à la situation qu'ils sont en train de traverser. Et profiter de l'occasion également, Pascal, si tu le permets, de saluer une dame ce matin. Je voudrais nommer Madame Soukou Yolande. Je voudrais un salut particulier à cette dame. Et pour ceux qui sont à l'écoute, ceux qui ne le savent pas, d'autres le sauront après. Et madame, si vous êtes à l'écoute, je vous salue spécialement et merci pour la dernière fois et que la main de Dieu soit sur vous. D'accord. Et je voulais terminer, Pascal, par un constat dans notre pays actuellement. Et j'ai fait un peu le tour, pas seulement à Lomé, sur toute l'étendue du territoire. un constat un peu touchant. Je ne sais pas ce qui se passe réellement. Je ne sais pas si c'est parce que les gens ont fait les prêts dans les banques et que les banques sont à la trousse de ces personnes. Vous allez voir que la plupart, que ce soit Lomé à l'intérieur du pays, Pascal, vous allez voir que la plupart des maisons sont en vente. Je me pose des questions. Et qu'est-ce qui pousse les gens à vendre leur maison? Est-ce qu'ils ont fait des prêts? Ils ont fait des prêts au niveau des banques. Ils ont fait des prêts au niveau, effectivement, des microfinances. Et que les microfinances, les banques sont à leur trousse. Ils sont en train de vendre leur maison. C'est un peu problématique dans notre pays aujourd'hui. Et il faut que ceux qui pourront se pencher sur ce problème. C'est vrai que certains ont fait des prêts. Mais la plupart, le constat, c'est que il y a quand même un sérieux problème. L'héritage que vous pouvez posséder pour vos enfants, Pascal, quand tout ne va pas bien, c'est la maison. Mais quand vous vendez les maisons, je ne sais pas quel est vraiment le nœud. Donc, si c'est vraiment les prêts que les gens ont fait au sein des banques, ou soit au sein d'une microfinance qui n'arrive plus à payer, il faudrait qu'on puisse quand même voir cette affaire et aider les pauvres parents qui ont pris tout leur temps, leur vie, à bâtir une maison et qui sont obligés finalement de vendre ces maisons. Quand vous circulez dans les quartiers un peu partout dans Lomé, le constat c'est qu'il y a trop de maisons en vente. C'est pas... Est-ce qu'on trouve même les preneurs? Ça, c'est également une autre question.
C'est une autre question. Merci à vous, Jacques Dzakouti, d'avoir répondu à notre invitation. Didier Assogba, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM et bien de choses à tous ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde et surtout au PP, au grand pays qui vient d'arriver.
Merci d'avoir répondu à notre invitation, j'espère que vous allez bien.
C'est un plaisir d'être là et tant qu'il y a la vie, dit-on, il y a de l'espoir. Donc je vais bien, je suis debout aujourd'hui, je ne me plains pas. Pour le reste, c'est ce que tous les Togolais n'ont pas que je n'ai pas. Donc, à partir de ce moment-là, nous nourrissons l'espoir de ce que les choses iront mieux et qu'il y aura un avenir meilleur pour chacun de nous, où que nous nous trouvons au Togo. Je pense que c'est ça qui fait vivre, d'ailleurs.
Et justement, c'est ça qui fait vivre et c'est ça notre souhait même, d'ailleurs, qu'il y ait justement un avenir meilleur. Et c'est l'espérance là que nous avons, cet espoir que nous nourrissons chaque jour. Vous parlez de lui en parlant de grand P. Je ne sais pas, déjà, ça va s'assimiler à un nom quand même que nous connaissons aussi. Gaston Ketomania, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Tu as pu m'arracher le sourire. J'ai fait du sprint pour répondre présent à l'heure. J'étais au tribunal pour une audience.
Tout à fait, tu m'en parlais.
Une convocation, une citation directe qui dure depuis juillet 2023 ou je ne sais plus. Pour, je crois, diffamation. Et pourtant, bon, je ne suis pas juge pour rentrer dans les détails, mais je reste confiant. Tout comme nous étions confiants la dernière fois, je crois que toi et moi, on s'est croisés quelque part. Bon, nous avons lu dans les médias les quelques remarques qui vous ont été faites. Bizarrement, les gens nous ont demandé, et nous alors, puisqu'ils ont appris que nous étions aussi invités, c'est le lieu de faire un clin d'œil confraternel aux membres de la HAC, parce que quand vous ne faites pas bien, ne comptez pas sur moi pour dire que vous faites bien. Quand c'est bien fait, c'est professionnel, je serai de ceux-là aussi qui diront que ben, vous vous êtes bien battu, ça va, beaucoup de courage. Je veux faire un clin d'œil aux membres de la HAC pour leur dire d'abord merci pour le cadre d'abord et l'ambiance qui avait régné lors des échanges le vendredi dernier. Pour une fois, je n'ai pas regretté mon passage là-bas. Et je profite de l'occasion pour dire un coucou spécial à Madame Aminata Adrou.
D'accord. Merci, Gosson Ketomania. Je sais quand même que notre effort et aussi chaque jour, c'est que le professionnalisme soit au rendez-vous dans cette émission. C'est ce que nous essayons alors de faire. Et nous allons toujours lutter pour cela, pour que le professionnalisme soit toujours au rendez-vous tel que je l'ai dit. Jacques, nous commençons cette émission avec le climat. C'est vrai, tout récemment, c'était le jeudi dernier, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi sur le climat, le changement climatique. Ça veut dire que aujourd'hui, quand on parle alors de changement climatique, c'est devenu très prégnant dans notre société.
Je suis d'accord avec vous. En venant ici, j'ai un petit frère qui m'a appelé d'Apaon et qui me disait qu'il voulait prendre la température de Lomé parce que la chaleur ambiante actuellement au nord, c'est vraiment difficile pour eux. Je leur ai dit, bon, en tout cas, on a eu quelques gouttelettes de pluie pendant ces deux jours, mais il faut reconnaître que la chaleur y est. Vous savez, quand on parle de changement climatique, Pascal, c'est nous les êtres humains qui sommes à la cause. Quand vous prenez aujourd'hui la couche par rapport au reboisement de notre pays, nous constatons que nous plantons effectivement les arbres, mais nous les coupons encore. Parce qu'il n'y a pas effectivement des mesures prises par le gouvernement pour aider effectivement les populations. Quand on parle par exemple, Pascal, vous prenez l'aspect par exemple du bois. On constate que quand on parle du reboisement, les gens plantent les arbres. Mais au même moment, les gens coupent encore les arbres. Parce que quand vous prenez le prix du gaz, ça coûte cher par rapport aux populations. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les gens n'ont plus d'alternative. L'alternative qu'ils ont, c'est les arbres qu'ils plantent. Ils sont obligés encore de les couper. Donc si on veut effectivement avoir une couche où on peut avoir de la verdure sur l'étendue du territoire, il faudrait que le gouvernement puisse avoir le courage de prendre des mesures. Moi, je me suis attendu, par exemple, à l'Assemblée nationale par rapport au vote de cette loi. Je me disais que quelque part, peut-être que l'Assemblée nationale devait prendre également une loi pour demander au gouvernement de revoir le prix, effectivement, du gaz qui constitue aujourd'hui un casse-tête pour nos populations. C'est vrai de prendre les mesures, parlant du climat. Nous savons que le climat, c'est un peu difficile parce que quand il n'y a pas la pluie, Pascal, il faut s'attendre à ce que la famine s'en suive. Et lorsqu'il n'y a pas la pluie, il faut s'attendre également à des épidémies. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Donc je crois qu'au-delà de prendre, par exemple, les lois, au-delà de voter effectivement les lois, il faut quand même prendre des mesures basiques qui peuvent aider effectivement nos populations à pouvoir être un peu soulagées. Parce que Pascal, il ne constitue pas de dire de planter, par exemple, des arbres, 1 million d'arbres par an. Et au même moment, pendant cette même année, on coupe plus de 800. Ça n'a pas de sens. Donc je crois que pour combattre effectivement cet aspect, prenons des mesures qui puissent effectivement accompagner l'homme à prendre effectivement, à être un peu soulagé pour pouvoir être à l'aise, de pouvoir mettre en branle effectivement toutes ces mesures, toutes ces lois qu'on est en train de voter au niveau de l'Assemblée nationale.
Oui, mais, oui, Didier, c'est vrai, il y a des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. On sait également cette campagne de reboisement qui a été lancée par le gouvernement entre-temps. Et d'ici à 2030, on veut pratiquement reboiser 1 milliard de plants. Et aujourd'hui, le samedi dernier, il y a le ministre de l'Environnement qui a fait un bilan sur cette question de reboisement, et il est à noter que le Togo doit intensifier ce qui concerne ses efforts de reboisement avec une augmentation d'au moins 2 millions de plants plantés chaque année.
Oui, c'est aussi ça la difficulté que nous avons des fois dans l'action publique que nous menons et qui des fois, après, quand on fait le bilan, on a l'impression ou le constat est fait des fois qu'on fait des efforts, mais sauf que la progression ne suit pas, ou plutôt les résultats tardent à venir. C'est bien dommage parce que Jacques disait quelque chose de fondamental tout à l'heure. Je pense que les efforts en matière de lutte pour la préservation de l'environnement, du climat et de tout ce que nous disons, les efforts et nos politiques, nos décisions doivent aller dans le même sens pour qu'au final on puisse avoir les résultats escomptés. Mais si des décisions viennent contrer d'autres décisions dans les efforts que nous déployons, je pense que ça va donner des statistiques comme ce que tu viens d'évoquer là, où on déploie de l'armada, des moyens de l'État pour une campagne, mais on se rencontre 6 mois après, 7 mois après, qu'en réalité, on n'en a pas fait autant qu'on devrait faire ou qu'on pensait avoir fait. Alors, si nous devons planter les plantes, et si vous permettez, nous devons planter les arbres. Et Dieu seul sait, moi je viens d'une zone où il y avait tellement d'arbres. Aujourd'hui, il y en a moins. Malgré les campagnes de reboisement et tout ce qu'il y a, il y en a moins. Les gens vont dire, il parle de chez lui, c'est la bâche que je connais. Mais Gosson pourra dire autant de là où il connaît, de Palimé et tout, c'est des zones où il y avait tellement d'arbres il y a quelques années. Mais aujourd'hui, pourquoi quand on y va, il y a moins de la verdure que par rapport au passé? C'est parce qu'on n'offre pas ou nous n'avons pas d'autres alternatives qui motivent les populations à abandonner un certain nombre de pratiques de déforestation de nos localités, de notre pays. Si, des fois, la seule source de revenus pour beaucoup de familles dans une localité comme d'où je viens, par exemple, c'est peut-être d'aller faire des charbons de bois à vendre chaque jeudi, puisque c'est le jeudi que le marché du canton s'anime, faire les charbons du bois, venir vendre les jeudis pour avoir les moyens de vivre, prendre soin des enfants, payer les écolages, assurer ce qu'il faut assurer pour toute la famille. Si on doit le faire chaque semaine, par exemple, vous imaginez le nombre d'arbres qu'on doit couper. Et pas une famille, pas deux familles, la majorité des familles du canton, par exemple, doivent faire cette activité-là pour pouvoir vivre. Vous imaginez que 5 ans après, 10 ans après, le problème là que nous évoquons de climat, d'environnement va se poser. Alors que je pense que les charbons de bois, tout ce qu'on va dans les localités reculées là, se déverse sur Lomé. Donc s'il y a de la demande, autant de demandes à Lomé, qu'on amène du charbon de bois, de Couvé, de Palimé, de je ne sais pas d'où, de Nautier et tout ça, et que tout ça est absorbé assez facilement à Lomé, ça veut dire que les gens de Lomé utilisent plus de charbon de bois qu'ils ne devraient utiliser d'autres sources pour, par exemple, les besoins de cuisine et autre chose. Alors que nous avons dit qu'il faut faire la promotion du gaz domestique, du gaz butane pour pouvoir desserrer la pression sur le climat, nos forêts, nos localités. Mais si c'est dans ce contexte-là qu'il y a quelques mois, nous augmentons le prix sur le gaz domestique, alors que tout autour de nous, c'est deux fois moins cher, à partir de ce moment-là, on a beau planter 2 millions de plus d'arbres cette année 2025, mais 2026, on va faire le bilan, je parie qu'on aura besoin peut-être de planter 3 millions. Parce que en plantant 2 millions d'arbres, Dieu seul sait combien de quantités on a coupé, surtout le Togo, durant l'année. Donc, le nombre à reboiser va poser de problèmes. Mais le véritable problème se trouve où? Les arbres que nous plantons aujourd'hui ne poussent pas demain pour devenir des forêts après le lundi prochain, de toute façon. Il faut attendre des années pour que les résultats escomptés puissent être atteints. Donc, à partir de ce moment-là, si nous n'accompagnons pas cette politique, cette campagne de reboisement avec une politique un peu ambitieuse de promotion de gaz, enfin d'autres sources à utiliser dans les cuisines et tout ça, je veux croire qu'on fera un peu comme le travail de Sisyphe. On arrivera un jour au sommet de la montagne, on se rendra compte que la pierre qu'on roulait là est retournée au pied de la montagne. Merci. Et on va reprendre encore, ouais. Et c'est dommage.
Merci Didier. Gosson, est-ce que vous avez l'impression que pour ce qui concerne surtout cette campagne de reboisement, les populations sont tellement impliquées pour que cela prenne?
Ben, tu sais Pascal, au risque de déplaire, je dois dire que les forêts continueront d'être détruites de par l'augmentation de la population, de par l'urbanisation. Qu'on le veuille ou pas, c'est un phénomène naturel. Mais ce n'est pas là le nœud de mon intervention. Tout à l'heure, Didier chutait en parlant de politique de promotion d'autres sources d'énergie. Je vais parler spécialement du gaz butane, Pascal. Il y a quelques années, le prix a augmenté comparativement ou contrairement aux autres pays. Mais dans le budget, la loi de finances, exercice 2025, il est noté que le gaz butane sera subventionné à hauteur de 9,6 milliards de francs CFA. Pascal.
9,6 milliards.
Je n'invente pas les chiffres. 9,6 milliards et non 9,6 millions. Pour subventionner le gaz butane. Comment ça doit se, ça va se faire? Si aujourd'hui le prix du gaz est à ce niveau-là, je veux croire qu'on ne va pas me faire avaler le fait que le gaz était déjà subventionné. Je ne serai pas convaincu. Mais s'ils ont pu sortir cette somme, ça voudra dire qu'ils veulent faire quelque chose. Moi, je m'attendais à voir les députés aller dans ce sens-là. Une loi. Heureusement que cette loi, elle n'a pas été votée notamment pour que les populations découvrent le lendemain que l'Assemblée nationale a encore voté une loi notamment. Elle a été faite le jour. Mais à quoi ça va servir? Les 9,6 milliards là, quel doit être le prix du gaz à l'aide de cette subvention? Puisque nous sommes déjà à fin mars, il nous restera 9 mois. Parce que 9 mois, si je veux être plus mathématique, ça voudra dire que par mois, il faudra une subvention d'un milliard. Puisque c'est 9,6 milliards. Il faut que les populations ressentent cette subvention au quotidien pour inciter les gens à se tourner vers cette source d'énergie plutôt que se rabattre sur les arbres. J'en viens à me convaincre que cette affaire de reboisement et autres, c'est pour un meilleur, pour être mieux perçu par l'international. Parce que qu'est-ce que le Togo consomme en matière d'énergie ou alors de... À quel degré est-ce que le Togo abat-il les arbres pour que la question de reboisement, de changement climatique soit si important pour certains? Là, je l'ai dit, au risque de me reprendre, c'est consacré dans notre budget, les 9,6 milliards là. Il faut que les gens viennent nous expliquer comment cette subvention se fera ressentir dans tous les foyers qui utilisent le gaz butane. Autrement, moi, j'attendrai la fin de l'année pour voir l'usage qui a été fait de ce chiffre-là qui est inscrit dans le budget.
Merci beaucoup, Gossen. Oui, sans transition, nous allons parler de l'assainissement hein, de nos communes, parce que ça aussi, ça fait trait à l'environnement. Oui, il y a un article que vous avez écrit, Togo Breaking News, vous écrivez « Salubrité publique, des volontaires des ghettos nettoient le tribunal et la cour d'appel ». Oui, ça c'est une activité, bien sûr, qui a été menée. Mais pour ce qui concerne aujourd'hui l'assainissement déjà dans nos communes, c'est vrai, beaucoup d'observateurs critiquent les communes, les mairies de ce que aujourd'hui l'assainissement n'est pas au rendez-vous. Est-ce que vous avez aussi la même impression?
Oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression que l'assainissement de nos localités, de nos communes, de nos quartiers n'est pas ce qu'il devrait être. Est-ce qu'il faut accuser uniquement les communes? Non. Les responsabilités sont partagées. Parce qu'avant de commencer à accuser les communes, il faut que nous commençons peut-être par accuser les responsables de, comment vous appelez, les comités
de développement
des quartiers, de villages,
CDQ, et tout ça. CVD.
Il faut que nous commençons déjà par les accuser, et si nous finissons de les accuser, il faut que nous commençons par accuser les responsables des concessions, c'est-à-dire monsieur chacun. Chacun des Togolais que nous sommes et nous vivons dans des quartiers. Si nos quartiers sont sales, c'est parce que certains n'entretiennent pas devant chez eux. C'est beaucoup plus simple, hein, Gosson, je ne sais pas, il ne me mentira pas. Si on rentre dans une ruelle et qu'on trouve que c'est sale, c'est parce que les gens n'ont pas su assumer leurs responsabilités au niveau de ce quartier-là. Et après, je sais que la dynamique doit venir de quelque part et les comités de développement de quartier et tout ça doivent impulser la dynamique et cette dynamique-là doit chapeauter par les communes. Et parlant d'assainissement, ça peut peut-être se retrouver à deux volets. Si on dit par exemple qu'on n'a pas balayé des endroits, on ne va pas venir accuser la mairie quand même de n'avoir pas balayé la devanture des gens. Ça, c'est de la responsabilité des gens. Mais si on dit qu'il y a des grands problèmes qui se posent, par exemple, d'inondation, d'entretien d'un certain nombre de ruelles et tout ça, c'est là qu'on doit maintenant accuser les mairies de n'avoir pas fait ce qu'elles devraient faire. Et donc, je pense que si nous voulons que le Togo soit propre demain, il ne suffira pas que chacun de nous, on se met à accuser. Non, Lomé est sale, Lomé est sale. Le quartier où j'habite, qu'est-ce que je fais à la devanture de la maison où j'habite? Et après, les CDQ, les CVD et tout ça, qu'est-ce qu'ils font en tant que dynamique pour accompagner dans le sens de la salubrité de notre capitale et de tout le Togo? Et les mairies doivent également impulser, encourager cette dynamique-là, s'il le faut, et mettre les matériels à disposition des gens qui doivent faire ce travail-là. Et je pense que ce sera comme ça que nous pourrons arriver à impulser véritablement le développement de notre pays, et chacun assumant ses responsabilités depuis chez lui à la maison, nous pourrons demain arriver à avoir un Togo propre. Il y a des travaux qui demanderont plus de l'intervention de la mairie et de l'État, et là ça va être dans les cas des inondations par exemple, les endroits où il faut mettre par exemple des caniveaux, il faut mettre par exemple des ponceaux, il faut mettre par exemple un certain nombre d'ouvrages qui demandent plus de moyens. Je pense que ce sera là qu'on va commencer par accuser les mairies de n'avoir pas fait. Si des mairies n'ont pas mis des caniveaux là où il faut mettre, il faut les accuser. Si n'ont pas mis des ponceaux où il faut mettre des ponts, il faut les accuser. Mais si des gens n'ont pas balayé devant chez eux, il faut avoir le courage aussi de dire aux Togolais, vous n'avez pas balayé devant chez vous. Et bon, comme c'est le slogan qui passe maintenant, si la cour du mouton est sale,
c'est pas au cochon
de venir le dire. Donc, si nous ne voulons pas être traités demain de cochon et tout ça, balayons devant chez nous et invitons maintenant la mairie à venir faire des ouvrages qui relèvent de la responsabilité de leur responsabilité pour que nos quartiers continuent d'être assainis. Et également, les agents qui sont préposés à faire un certain nombre de travail doivent le faire avec responsabilité. Si on dit par exemple que des gens de ghetto sont venus balayer derrière le tribunal et la cour d'appel, ça ne devrait pas être le cas normalement. Il y a des agents qui étaient censés faire ces travaux d'entretien et tout ça. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ils ont laissé la cour d'appel et le tribunal sales pour que d'autres se constituent sur invitation, action de la fondation plutôt Fadi pour pouvoir venir faire ce travail là. Donc je pense que la responsabilité incombe à chacun de nous, mais à divers degrés, les mairies un peu plus et on dira l'État beaucoup plus, mais chacun doit commencer par faire si nous voulons demain avoir un Togo plus propre.
Merci, Didier. Oui, Jacques, c'est vrai que entre-temps, on avait vraiment cette habitude, c'est-à-dire devant la devanture, à la devanture même d'ailleurs de chacun, le petit matin, on se lève et on balaie justement notre devanture. Mais c'est comme si cela disparaît maintenant de l'habitude du Togolais.
Bon, vous savez, Pascal, c'est vrai, et la responsabilité incombe d'abord à nous les parents.
Apparemment, c'est comme...
Oui, c'est-à-dire que...
Quelqu'un vient nous...
Oui, allez-y.
La responsabilité... oui.
Jacques, allez-y, s'il vous plaît.
La responsabilité incombe d'abord à nous les parents. Pascal, vous savez, nous, quand à la maison, vous savez, du lundi, par exemple, au dimanche, il y a toujours un partage qui a été fait. C'est-à-dire que au niveau effectivement des...
Oui, allez-y.
Voilà, au niveau effectivement de la famille. C'est-à-dire que de lundi, par exemple, à dimanche, il y a des jours qu'on vous partage, par exemple, au niveau de la maison, c'est-à-dire les responsabilités. Par exemple, si vous êtes 5 ou 7 dans la maison, lundi, il y en a qui balaient, mardi, l'autre qui balaient, jusqu'au dimanche. Mais aujourd'hui, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Les parents prennent ce qu'on appelle, par exemple, les bonnes. Et bon, c'est les bonnes qui s'occupent maintenant de balayer la maison, de balayer la cour. Et aujourd'hui, le constat, c'est que les gens ne font plus rien. Donc, et parler d'abord de la responsabilité de la maison, après maintenant, parler de la responsabilité du dehors. Parce que si on ne le fait pas, le dehors ne pourra pas être également propre. Et puis l'autre aspect aujourd'hui, Pascal, il faut qu'on se le dise, hein. Quand vous voyez aujourd'hui les foyers, les gens quand ils balaient par exemple leur devanture, qui va venir ramasser par exemple les ordures? C'est également une autre paire de manches. Vous savez que dans les années par exemple 80, 90 et autres, on avait une société qu'on appelait dans le pays soutenement, c'est-à-dire qui déposait les conteneurs dans les quartiers. Lorsque vous balayez, par exemple, vous prenez les ordures là, vous allez les déverser là-bas, et après on vide le conteneur, on ramène encore l'autre conteneur. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est vraiment des problèmes au sein, effectivement, de ces foyers. Quand vous voyez les quartiers aujourd'hui, on balaye, on voit les ordures un peu partout, qui sont dissimulées devant les maisons. Qui va venir ramasser ces ordures? C'est également une autre paire de manches. Donc je crois que la responsabilité incombe d'abord à nous, qui sommes les parents. Après, on parlera également de la mairie, on parlera également de l'État. Donc, c'est des responsabilités partagées. Comme on l'a dit, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la mairie qui va venir te dire de laver quand même, ne serait-ce que tes toilettes, Pascal. Donc, la responsabilité nous incombe d'abord. Donc, je crois qu'il faudrait que ce qu'on vivait dans les temps anciens, c'est-à-dire où on partageait les tâches entre les enfants, c'est-à-dire et le garçon, et la fille, c'est-à-dire qu'il y a certains qui balayent du lundi et ceux qui prennent, par exemple, le mardi jusqu'au dimanche, il faut qu'on puisse avoir cette culture. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, on laisse la tâche aux bonnes. Et c'est les bonnes aujourd'hui qui font tout et les enfants sont là et ne veulent rien faire. Donc je crois qu'il faudrait qu'on reprenne effectivement cette habitude, inciter, par exemple, nos enfants à faire des travaux de ménage à la maison. Et si on ne le fait pas, cela ne pourra pas marcher. Aujourd'hui, regardez le constat aujourd'hui, Pascal. Quelqu'un qui, par exemple, qui lave tout, il sort, il déverse sur la voie. Et lorsque tu veux le raisonner, il te pose la question, est-ce que la voie là, c'est pour ton papa, c'est pour ta maman? Alors que la voie, c'est pour nous tous. Quand c'est propre, c'est bon pour nous. Quand c'est sale, également, c'est nous qui allons en pâtir. Donc, il faudrait que nous soyons conscients de ce que nous sommes en train de faire par rapport à l'hygiène et à la propreté de nos maisons, et la propriété également de nos devantures.
Est-ce que vous avez aussi l'impression que la responsabilité doit être partagée entre nous qui sommes citoyens, la mairie et même au grand échelle, c'est-à-dire au niveau de l'État?
Pascal, tu sais, je n'aborderai pas la question d'assainissement de la ville de Lomé parce que dans les autres villes, c'est moins prégnant. De par les routes, les voies et autres à Lomé, la question se pose un peu plus. Mais moi, ce n'est pas tant les ordures et autres ménagères qui me préoccupent quand je pense assainissement. Quand vous descendez la route de l'hôpital, juste après la station TOL, sur une bonne distance, vous êtes obligé d'arrêter votre respiration. Tout comme quand vous prenez la rue de Badago, qui vient vers Hankopé, surtout au niveau du marché, vous avez du mal à respirer un bon air. Quelle en est la cause? C'est à divers niveaux. D'abord, ceux qui implantent les caniveaux. Pascal, j'ai eu les preuves, par exemple, sur la voie qui passe devant la pharmacie pour tous, que des habitants ont approché ceux qui faisaient la voie pour que des tuyaux rentre dans ces rigoles-là. Et pourtant, c'est des rigoles publiques. Ce n'est pas possible. Dans chaque maison, il devrait y avoir les puisards et autres, les fosses septiques, pour recueillir les eaux usées. Mais si on permet que des habitations déversent ces eaux usées dans les rigoles qui sont censées évacuer les eaux de pluie et autres, mais il y a problème. Il y a problème. Au niveau des fosses septiques, aujourd'hui, il faut le dire, avoir le courage de le dire, les mairies de certains quartiers devaient décréter ou alors devaient donner un ultimatum à des habitations pour que dans un certain délai, les vieilles fosses septiques, les vieux puisards là, soient changés. Autrement, on ne sortira pas de l'ornière. Le quartier est bien haut. J'ai toujours dit qu'il me sera difficile d'habiter dans certains quartiers à Lomé.
Mais pourquoi? Fait,
justement, ces odeurs, ce n'est même plus des odeurs nauséabondes. C'est putride. ça te prend à la gorge. Là, tu sens qu'il y a un problème d'assainissement. Pour ce qui est du balai, les rues et autres, en deux temps, trois mouvements, on va le faire. C'est même au quotidien. Mais quand on implante des ouvrages qui permettent que des gens déversent leur saleté là-dedans, alors qu'il n'y a pas de pluie pour les évacuer vers la lagune. Parlant de la lagune, pourquoi elle est dans cet état? Parce que tout ce qui est charrié vers là ne devrait pas l'être. Comment est-ce que la douche des maisons doit se retrouver dans la lagune? Ce n'est pas possible. Cette lagune, dans notre enfance, nous allions y pêcher des poissons. Aujourd'hui, combien de poissons peuvent survivre dans ces genres de lagunes? Donc, à Nazap, certaines communes, les autorités, certaines entreprises qui sont laxistes et permettent des raccordements dans les caniveaux, il faut que on mette fin à tout ça. Si on veut vraiment prendre le taureau par les cornes, parce que moi, j'ai été formé, je suis agent d'hygiène et d'assainissement. Donc, appelons un chat un chat.
Merci, Gosson. Oui, c'est vrai que déjà, cette question d'assainissement ou de salubrité de notre capitale ou du Togo même tout entier, ça tient à cœur au gouvernement. Entre-temps, vous avez vu quand même qu'il y avait cette opération Togo propre et c'est cette opération qui a été suspendue entre-temps, mais finalement, ça reprend déjà à partir du 5 avril, c'est-à-dire le samedi, hein, le samedi 5 avril. Ça veut dire que c'est une bonne chose.
Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'un certain nombre d'opérations reprennent. Togo propre, nous avons besoin que le Togo soit propre. Et ça, il faut le faire. Il faut quand même lancer cette opération-là, c'est fait. Il faut juste qu'on veille à ce qu'il n'y ait pas de connotation politique pour décourager un certain nombre de personnes à s'inscrire dans la dynamique. Sinon, l'opération est bien lancée et c'est une bonne nouvelle, c'est bienvenu à point. Il faut que chaque mois, nous puissions entretenir notre pays. Et ça, c'est normal. Donc, j'exhorte les autorités à veiller à ce qu'il n'y ait pas de tendance de récupération politique derrière pour enlever son sens premier à cette opération-là qui consiste à rendre le Togo propre. Et ceci dit, je pense également que ce que dit Gosson tout à l'heure, il touchait un point fondamental. Il parlait des maisons où on a raccordé des tuyaux à des caniveaux. Mais il y a beaucoup de maisons Lomé où il n'y a même pas de puzard, où il n'y a même pas de toilettes. Il y a beaucoup de maisons, il n'y a pas de puzard.
De sanitaires en général.
De sanitaires en général, où il y a des sanitaires, mais il n'y a pas de puzard pour recueillir les eaux là. Et donc les gens finissent de se laver, ils prennent l'eau là, c'est devant la maison, dans les rues, vous arrivez dans un certain nombre de quartiers, vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez pas respirer comme il le dit, parce que justement, des gens ont refusé de faire simplement le puzard à la maison pour recueillir les eaux usées là. Donc à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on fait dans ce sens? Parce que tant que des gens n'auront pas de puzard chez eux, il faut quand même que les eaux usées soient envoyées vers quelque part ou jetées quelque part. Quelle politique nous allons mener? Je ne sais pas, je lance juste un pavé comme ça dans la mare. Nous allons réfléchir ensemble. Est-ce que les mairies doivent donner des ultimatums à toutes les maisons de leur ressort, de ce qu'on ne doit, on ne veut plus voir des eaux usées, être jetées dans le quartier, dans les quartiers comme ça, pour que toutes les maisons puissent avoir des puzards et des fosses pour recueillir les eaux usées, tant des toilettes que des cuisines et tout ça, pour permettre justement à ce que l'environnement même, le climat de nos quartiers soit un climat assez... parce que cette histoire-là, c'est la cause des problèmes de voisinage dans beaucoup de quartiers. Parce que un monsieur a une maison, lui, il a tout à la maison et il ne jette jamais de l'eau dehors. Mais vous voyez, c'est devant chez lui que des gens qui n'ont pas de puzard, qui n'ont pas de fosse, ils reprennent tous les eaux-là pour venir, pour jeter dans la rue et tout ça. Et ça crée des problèmes de voisinage. Si nous voulons régler ce problème d'assainissement de Lomé, au-delà des aspects que nous évoquons, il faut également que les mairies essayent de chercher, de rappeler à la responsabilité des propriétaires d'un certain nombre de maisons, c'est la majorité d'ailleurs, de ce que l'assainissement de la ville doit commencer par là. Si nous ne voulons pas avoir des odeurs de mets dans la ville, il faut que dans chaque maison, on puisse avoir ces dispositifs-là qui permettent de recueillir les eaux usées. Et je pense que ça évitera beaucoup de problèmes à notre climat, à notre environnement, à Lomé. Et c'est un appel que je lance. Les mairies peuvent multiplier les réflexions là-dessus avec leurs services techniques et les agents d'hygiène pour que peut-être une mesure standard soit prise. Je ne sais pas dans ce sens-là s'il y a des services de la mairie qui peuvent aider. C'est juste, on a besoin quand même de ça, sinon on pourra faire Togo propre chaque mois et tout ça. Tant que ces histoires-là vont continuer dans les quartiers, on n'aura rien fait.
D'accord. Jacques, c'est vrai que aujourd'hui, beaucoup tous également le civisme, puisque on se dit que depuis un moment chez le Togolais, on ne retrouve pas le civisme comme cela se doit. Et est-ce que ça ne nous crée pas aussi des dangers en matière d'assainissement?
Non, vous savez, quand on parle du civisme, c'est la responsabilité individuelle, hein, Pascal. Elle a dit que si tu sors de la maison, on saura qui tu es par rapport à ton habillement. On saura ce qui tu es dans la maison. Il y en a quand vous les voyez, ils paraissent par exemple propres au dehors, mais au dedans, il faut aller voir comment ils se comportent dans la maison. Tout dépend de la tête, tout part de la tête. Et comment vous vivez à la maison, cela peut déterminer également ce que vous êtes. Et si vous êtes propre au dehors, à la maison, vous êtes sale, ça n'a pas du tout de sens. C'est ça le problème, Pascal. C'est-à-dire que quand on parle de civisme, quand on parle de propreté et autres, c'est la responsabilité de la personne elle-même. Si tu veux être en bonne santé, comme on t'a toujours dit à l'école, on dit qu'on vit dans un environnement sain et dans un esprit sain. C'est-à-dire que quand ton environnement a des problèmes, attends-toi à ce que tu sois également malade. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra te dire, mais écoute mon frère, il faut entretenir ta maison, il faut entretenir par exemple tes toilettes, il faut entretenir par exemple ta douche. Non, la responsabilité nous incombe d'abord. Mais c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faudrait que nous les parents que nous sommes, nous puissions également faire intervenir nos enfants dans des travaux à la maison. On sait que les enfants sont souvent occupés du lundi par exemple au vendredi. Mais les samedis et les dimanches, il faut tout faire. Même si l'enfant doit laver, par exemple, les toilettes, l'enfant doit laver, par exemple, la douche, il faut le faire. Il faut apprendre, effectivement, à l'enfant à faire certaines choses. Ne laissons pas tout, par exemple, à la bonne. Aujourd'hui, les gens se plaignent que les bonnes sont en train de retirer leur mari de gauche à droite. Mais c'est votre responsabilité. Si, Pascal, vous avez une bonne à la maison et c'est la bonne qui dresse, par exemple, le lit, mais qu'est-ce que vous voulez que la bonne fasse? Le monsieur rentre dans la chambre, il voit la bonne est en train de dresser le lit. Mais il va pousser la bonne et là, vous serez en train de pleurer. Donc ça, je crois qu'il faudrait que les femmes fassent très attention. Ne laissez pas les bonnes dresser les lits de vos maris. Ça, c'est pas bien. Ne laissez même pas les bonnes rentrer dans vos chambres par les bandes d'intimité entre toi et ton mari. Si vous le faites, vous aurez des problèmes. Parce que si vous avez une fois vu, on laisse par exemple un couteau en plein du feu. Mais ça va prendre. Vous ne pouvez pas laisser de l'essence à côté du feu. Ça va prendre. Donc je crois que la responsabilité nous incombe. C'est vrai que les femmes diront non, nous on est occupés du lundi et c'est samedi, dimanche qu'on se repose. Madame, là, ta première responsabilité, c'est vrai que tu es mariée, mais prends la responsabilité également de t'occuper de ton ménage. Mais si tu veux laisser tout à la bonne, mais souffrez que la bonne soit patronne à la maison. Et après, vous allez souffrir. C'est là que vous allez entendre dire de gauche à droite que le monsieur dit non, que la bonne prépare plus que la femme. Et ça crée des problèmes. Donc, apprenons nos enfants. C'est-à-dire les samedis et les dimanches, lorsque les enfants sont à la maison et que vous avez, par exemple, vos toilettes, apprenez les enfants à laver ne serait-ce que ces toilettes-là, rendre la maison propre, balayer la maison. Mais si vous allez tout laisser entre les mains de la bonne, Pascal, souffrez que demain, on puisse continuer pas à dire non, la maison est sale, la ville est sale, parce qu'on n'a pas appris la pépinière à faire ce qui est bon.
D'accord. Oui, Gosson.
Je veux juste ajouter que, parlant du civisme, aujourd'hui, à mon sens, les hommes doivent venir des adultes, des parents. Et parlant de l'impact du civisme sur l'assainissement, on doit apprendre ce civisme à tout propriétaire de maison, surtout des maisons de location. Ce n'est pas concevable que quelqu'un paie un lopin de terre, construise une maison, des chambres, mais sans construire de sanitaires. Impossible.
Ou les... mettre des sanitaires sans mettre de puisards, sans mettre des fosses.
C'est-à-dire que c'est la base avant que le permis de construire ne soit octroyé. Si on commence par là, ça veut dire que si tu t'entêtes à le faire, l'amende va te décourager à continuer. Donc, je veux juste relever que le civisme, là, c'est d'abord par les adultes, en montrant l'exemple. Et quand tu diras à ton enfant, parce qu'il t'a vu, toi, le père de famille, nettoyer la salle d'eau, le week-end prochain, va, rentre et va, apprends à nettoyer. Il ne peut qu'obtempérer.
Merci, Gosson.
Mais non, Pascal, ce qu'il disait, oui. a dit qu'il faudrait responsabiliser ceux qui construisent les maisons. Et autre aspect, vous ne pouvez pas concevoir, Pascal, que quelqu'un construise, par exemple, sa maison et qu'il fasse sortir le tuyau dehors. Il a dit quand il se douche, tout se déverse sur la route. Et les riverains ne peuvent même pas respirer. Mais c'est des problèmes impossibles. Donc je crois que, vous savez, dans le temps, on avait ce qu'on appelait les samasama là. Je ne sais pas si ça existe encore. Mais il faudrait que les mairies puissent revoir ça. Quand vous passez dans un quartier, vous voyez qu'un tuyau qui sort d'une maison pour se déverser. Mais il faut amender ces personnes. Voilà. Parce que les riverains ne respirent pas. Pascal, quand on dit par exemple qu'il y a des épidémies, c'est ça. Lorsqu'il pleut par exemple, toute cette eau-là va où? Ça risque de se déverser dans les maisons des autres. Donc, il faudrait que les mairies puissent prendre leurs responsabilités et amender les gens qui font ce genre de choses.
Merci beaucoup, Jacques. On va aborder un autre sujet. On va aborder maintenant le sujet politique de cette émission. C'est vrai, j'en parlais déjà au début alors de cette émission dans mes mots introductifs par rapport à ce premier meeting contre la nouvelle constitution. Les forces vives de l'opposition se sont retrouvées hier dimanche à Kassimé, à Rankopé pour exprimer leur contact. Contestation face à la constitution du 6 mai 2024. Et tour à tour, les leaders politiques et organisations de la société civile ont dénoncé ce qu'ils qualifient de coup d'État constitutionnel. Gosson, vous êtes revenu sur le sujet liberté, bien sûr. Vous écrivez ce matin, grande mobilisation à Lomé, l'opposition et la société civile entrent en résistance contre la nouvelle constitution controversée. Finalement, ça a eu lieu, ce meeting.
Et comment? Quand bien même tout a été fait pour démobiliser de par un communiqué, je ne sais plus de qui émane, mais au départ, il devait y avoir des caravanes pour mobiliser les gens à venir assister à la manifestation. Mais c'est deux jours avant ou bien la veille, un communiqué qui sort comme quoi la demande adressée à l'autorité pour que des forces de l'ordre soient mises à disposition pour ces caravanes, que cette demande ne saurait prospérer. Du coup, certains qui ne voulaient pas de cette manifestation s'en sont saisis pour dire que l'autorité a interdit la rencontre. Heureusement que, bon, ne pouvaient suivre que ceux qui n'étaient pas éveillés. La rencontre a eu lieu et c'est le plus important. Mais c'est ce qui me chagrine personnellement, c'est comment on a attendu que l'opposition lance cette manifestation pour qu'on apprenne dans la foulée que le même jour ou la veille, je ne sais plus, on a lancé une campagne de sensibilisation et d'explication, je ne sais pas, sur la constitution.
Mais est-ce que là, chacun n'est pas dans son rôle?
C'est quoi tu appelles pas chacun? Une constitution, elle engage toute une nation. Et je n'en démordrai jamais. La base est faussée. Une constitution, une loi fondamentale, c'est ça, il faut recueillir l'avis de tous les citoyens. Donc si aujourd'hui, des citoyens sont contre le fait que certains se soient réunis nuitamment, je précise nuitamment, pour chercher à imposer ça là aux citoyens. Mais normalement, ce qui a été fait à Kara, ça devrait être fait en amont de l'adoption ou d'un référendum constitutionnel. Mais comment on vote une constitution et c'est maintenant qu'on va lancer une campagne d'explication
Donc ça veut dire qu'au fond, on est conscient que ce qu'on a voté, le peuple n'est pas informé. C'est plus dans le sens, c'est ce que ça veut dire. Autrement, c'est une question de bon sens. Je suis né en 68. Je n'ai jamais appris que après le vote par référendum d'une constitution, on a initié des campagnes de sensibilisation. Si toi, tu l'as déjà appris, tu le dis publiquement. Je l'ai jamais. Pourquoi c'est seulement ce qui a été adopté nuitamment comme si ce sont les voleurs qui sortent la nuit.
Merci, Gosson. Oui, on a vu la contestation et le meeting de contestation hier avec l'opposition et le gouvernement également qui lance une campagne de sensibilisation sur la 5e République. Est-ce que chacun n'est pas vraiment dans son rôle?
On ne devrait pas se retrouver dans ces situations. En temps normal, en République, je pèse bien ce mot-là. Si nous sommes véritablement en République, on ne devrait pas être dans la situation où chacun est dans son rôle. Sur un certain nombre de sujets, je pense, des sujets assez sensibles, des sujets assez engageants, chacun ne devrait pas jouer son rôle. On devrait faire les choses ensemble et faire les choses dans les normes pour que justement chacun ne soit pas obligé en train de faire ce qu'il pense pouvoir faire. Comme les uns les autres l'ont dit et comme nous le savons tous, une constitution c'est un contrat social, ça engage tout le monde. Et pour éviter justement que chacun soit dans son rôle de ce que je ne suis pas d'accord ou je suis d'accord ou je ne veux pas ou je veux, on aurait pu, ma foi, faire les choses dans les normes au départ pour éviter justement que le gouvernement, après l'adoption d'une constitution, puisse aujourd'hui, je ne sais pas si ça se retrouve dans ça se retrouve dans le budget de l'État pour 2025, qu'on puisse mobiliser des ressources pour, en train d'expliquer ce qu'on a, ce qui paraît être. Vous avez vu des gens qui ont adopté des constitutions dernièrement sur le continent africain. Au Gabon, il n'y a pas de campagne pour expliquer. Partout, au Mali et tout ça, il n'y a pas de campagne pour expliquer la constitution parce que on estime qu'en amont, il y a eu assez de consultations, assez de concertations et que le contenu de la loi fondamentale est accepté de tous et compris de tous. Donc, point besoin, ma foi, d'être dans une autre campagne. Mais puisque là, ça peut être, comme on dit souvent, on peut oublier quelque chose et revenir prendre. J'espère qu'on a oublié quelque chose, maintenant, on revient prendre. Comme on dit, ce n'est pas du vol. Ce n'est pas une réponse à l'anecdote du voleur. Hein. Mais comme on dit dans notre langue ici, c'est quand tu oublies quelque chose, tu reviens prendre, c'est pas du vol. Donc, j'estime que le gouvernement avait oublié d'entretenir les couches de la population sur le contenu de la Constitution et tout ça. Maintenant, il revient les entretenir et ça, on s'en tient à ça. Mais de l'autre côté, puisque je dis, on n'avait pas fait les choses comme on devrait les faire, c'est pour ça justement que les opposants, les organisations et tout ça, les entités de l'opposition disent ne pas être d'accord avec la façon dont les choses ont été faites et ce qui a été fait même. Et c'est pour ça que justement, on a dû comprendre qu'ils doivent faire ce meeting-là et toutes les déclarations des uns et des autres hier-là si vous prenez l'action du gouvernement concernant la sensibilisation, l'explication autour de la Constitution, est-ce que les autres disaient là-bas, vous mettez les déclarations ensemble, vous tirez votre conclusion à vous, mais ce n'est pas moi qui tirerai cette conclusion ici en direct. Chacun des Togolais peut, à son niveau, tirer la conclusion qu'il doit tirer. Mais je pense fondamentalement qu'il y a eu des appels dans le sens de ce que le gouvernement est en train de faire. Y compris même des acteurs politiques de l'opposition, de s'asseoir, de discuter de cette nouvelle constitution-là et du régime parlementaire et de reparler autour du contenu pour voir qu'est-ce qu'on fait ensemble pour que demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, des gens ne soient pas tentés de revenir remettre en cause cette constitution parce que Si les États-Unis, par exemple, les gens se lèvent un jour et disent « Nous allons remettre en cause la Constitution parce qu'on n'a pas été consulté. » D'autres nourrissent l'ambition « On ne va jamais construire le pays. » Le pays a d'autres défis qui sont urgents, à mon sens, et qu'on devrait être assez concentré sur ces défis-là. Donc, si on doit être continuer de se diviser autour de la loi fondamentale qui était censée nous unir, parce que c'est notre contrat entre chacun de nous, Togolais, et on ne se met pas d'accord sur le contrat même. Donc, vous imaginez que ça va être difficile qu'on se mette autour des projets de développement pour faire évoluer le Togo. Donc, moi, ce que je peux dire en tant que Togolais ici, c'est que le gouvernement est en train de faire ce qu'il est en train de faire. L'opposition est en train de faire ce qu'il est en train de faire. On dira que l'État a déjà fait, le gouvernement a déjà fait ce qu'il a voulu faire. On a déjà une constitution, on a installé un certain nombre d'institutions déjà et qu'ils ne peuvent plus retourner en arrière. Mais de l'autre côté, je pense qu'il y a une disposition ou si vous voulez une prédisposition des gens à vouloir discuter de cette constitution, de son contenu et de la façon de faire évoluer les choses. Si j'avais été... Il y a quelqu'un qui est ici, conseiller virtuel du chef de l'État, donc je lui dis, il peut dire au chef de l'État que c'est une piste également à explorer pour éviter que les uns, les autres ne se déchirent autour de la Constitution qui, je le rappelle encore, était plutôt censé nous unir.
Merci. Disait, oui, Jacques, c'est vrai que aujourd'hui, quand on voit les choses telles qu'elles se déroulent, on voit que le train est déjà en marche. C'est ce que les initiateurs même d'ailleurs de cette constitution disent, que le train est déjà en marche. Mais est-ce que ça veut dire que cette contestation lors de l'opposition ne donnera rien?
Bon, vous savez, Pascal, l'histoire de la constitution entre ce que nous sommes en train de voir entre le parti au pouvoir et l'opposition, cela m'amène à raconter l'histoire de deux aveugles. Vous savez, il y avait deux aveugles dans un village. Un matin, ils ont décidé à 2h du matin, parce qu'ils sont dit, ils sont fatigués de vivre dans le village. Et ils disent que c'est mieux pour eux d'aller se suicider. Les deux aveugles, avant de quitter le village, chacun a pris soin de prendre un sac au dos. Et chacun a mis une pierre dans son sac. Et ils se sont dit qu'ils vont aller se jeter dans le fleuve du village. Arrivés au niveau du fleuve, le premier a dit à l'autre, « Bon, moi je m'en vais. » Et l'autre dit, « Paix à ton âme. » Il s'est avancé. Il a sorti son sac, il a enlevé la pierre, il l'a jeté dans l'eau. Le second croyait qu'effectivement, il s'est jeté quoi, plouf, dans l'eau, parce que la pierre a donné un bruit dans le fleuve. Donc le second s'est avancé, mais vous savez, c'est des aveugles. Quand l'autre est venu, ils se sont touchés. Et l'autre a dit, mais c'est qui? L'autre dit, mais toi c'est qui? Il dit, c'est lui. Ah, mais finalement, tu ne t'es pas suicidé? Et l'autre dit, non, mais écoute, la vie est comme ça, mais c'est doux. Je ne peux pas me tuer parce qu'il y a la souffrance. Je voulais dire quoi par là.
Oui.
Vous savez, et aujourd'hui, nous avons des problèmes, Pascal. Ça, il faut le reconnaître. Il ne faut pas feigner les problèmes que nous avons dans le pays. Je ne sais pas si vous avez suivi le rapport de Conrad Adenauer qui parlait de la situation sécuritaire dans notre région, c'est-à-dire au nord du pays. Il y a un autre également rapport qui est sorti tout récemment qui disait qu'il y a beaucoup de Togolais qui sont en train de fuir actuellement le pays, qui quittent le pays, parce que c'est un peu compliqué. Vous voyez, voilà les sujets sur lesquels, c'est-à-dire, et le parti au pouvoir, et l'opposition, devaient s'unir pour combattre, se poser des questions. Pourquoi nos compatriotes sont en train de quitter le pays? Pourquoi les djihadistes là sont en train encore d'occuper plus d'espace au nord du pays? C'est-à-dire que c'est des sujets qui devaient plutôt nous occuper au lieu de parler de la Constitution. Mais ce qui est plus intéressant dans, par exemple, le débat qui a lieu actuellement, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un esprit quand même où les uns et les autres veulent une petite ouverture pour parler. Parce que quand vous voyez un peu la dynamique Adjamagbo-Johnson a dit... Et ils ont dit qu'il faut discuter. Et je crois que quand vous écoutez, par exemple, monsieur Jean-Pierre Fabre, vous écoutez monsieur Apevon et David et autres, on sent que il y a les uns les autres qui veulent quand même qu'on puisse trouver une solution. Donc je crois que il ne faudrait pas que les gens perdent de vue que le fait qu'il y a, par exemple, l'esprit d'ouverture, l'esprit de discussion autour de cette constitution, il faudrait que les uns et les autres se disent qu'à un moment donné, qu'on puisse trouver quand même des solutions. Parce qu'on en a toujours dit en couple, même au sein des couples, il y a des problèmes qui arrivent. C'est pas quand il y a un problème, tu puisses dire à la femme de quitter. Aujourd'hui, les problèmes que nous avons, Pascal, on ne devait pas fuir les problèmes. On doit affronter les problèmes et les résoudre. Mais si on veut fuir, par exemple, les problèmes, déplacer les problèmes, on ne pourra pas les résoudre. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'ouverture est là. Du moment où, aujourd'hui, l'opposition parle de cette constitution, et le pouvoir également parle de cette constitution, c'est un débat également qui s'instaure. C'est un débat, effectivement, qu'il faut maintenant profiter pour saisir cette perche-là et se dire, à un moment donné, discutons et trouvons effectivement une solution par rapport aux problèmes qui minent notre pays.
Merci, cher confrère. Il est midi. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. Ils doivent nous appeler sur nos deux numéros, 90-86-35-35-91-36-63-75 et également sur notre numéro WhatsApp, nos écrits, 90-45-78-57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos amis. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90-86-35-35-91-36-63-75 et nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90-45-78-57. Notre premier auditeur est en ligne. Allô?
Allô? Bonjour, bonjour.
Bonjour Basile, comment vous allez?
Ah, c'est heureusement.
D'accord, allez-y.
Ah, ça ne va pas, je dois aller à la... Excusez-moi. On ne va pas tout voiler la face. Hein. Cette constitution a été adoptée d'une manière rocambolesque. Est-ce que ça ne se fait pas comme ça dans une république? Cette assemblée qui était là, de la 4e république, n'avait pas habilité à changer notre république sans consulter le peuple. Ils viendront ici vous dire le contraire, même vos confrères, même les bons partis. Ils vont citer 144. Ces articles peuvent faire une modification ou une révision. Ils ne peuvent pas changer de république à notre pays. Il faut que ça soit clair. C'est un coup de force. Un point, un trait. Celui qui n'est pas d'accord là-bas, il n'a qu'à rebondir sur ce que je viens de dire. Merci à vous.
Merci, Basile, pour votre intervention. C'est votre point de vue. 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Allô, bonjour.
Allô?
Oui, c'est Armand.
Allô?
Oui, allô, bonjour. Décidément, notre ami ne nous écoute pas. Il n'a pas de retour. 90-86-35-35. Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
C'est Canal FM?
Oui, c'est Canal FM. Vous êtes à l'entrée, à l'antenne. Votre nom, c'est?
Monsieur Tidré.
Pardon?
Monsieur Tidré.
Monsieur Tidré, vous nous appelez de quel quartier?
Je m'appelle de Ranco.
Ranco, allez-y. Oui, mais monsieur Tidré,
oui,
vous devez vous parler un peu plus fort parce que nous ne vous écoutons pas.
D'accord. Je dis, je voulais parler à mon frère Jacouti concernant nos deux aveugles. Et ils ont chance que quelqu'un leur a proposé une solution pour guérir leurs yeux. Il faut une remède. Mais bon, une solution en quelque sorte. Et c'est là qui constitue notre alternance. S'il y avait alternance, aujourd'hui, nous ne serons pas dans cet état. Il n'y a pas alternance. Nous avons, en 91, fait cette constitution vu ce que nous avons enduré avec le président Iyadema. Et c'est temps. Les gens d'Aguambio, là, nous faire tout ça, là, il va falloir que alternance donne une solution. Nous sommes dans une continuité. Vous voyez que maintenant, le régime est en train de souffrir. C'est lui qui souffre, ce n'est pas la population. Ceux qui sont en prison présentement, ceux qui sont en prison, ce serait comme ils sont en train de faire de l'amalgame vient de tricher l'État. Alors que s'il y avait alternance, on ne serait pas dans cet état présentement. Monsieur Diakouti, moi je pense que l'alternance était une solution pour ces aveugles. Bonne journée.
Bonne journée à vous aussi, Monsieur Tidré. Merci pour votre intervention. Bonjour Pascal et à tous vos confrères devant le CMS à Gouenivé. C'est horrible et puant aux alentours d'une formation sanitaire. Hier seulement, j'étais de passage à ce niveau. Et merci, c'est Didier de Vacbosito. Bonjour.
Allô?
Allô, bonjour.
Allô?
Décidément, il y a interférence. Allô, bonjour. Nous allons passer à un autre audit, 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Pardon, c'est votre nom, c'est?
Oui, c'est Natiba. Hein.
Ah, Natiba.
Oui.
J'espère que vous allez bien.
Vous appelez le GTA.
Allez-y.
Et je voudrais parler de l'assainissement. Et ce que vous avez soulevé, vraiment, c'est un truc pour toutes les grandes villes du Togo. Parce que ça pue. Et vous allez voir, messieurs les journalistes, quand vous pouvez, vous allez voir les immeubles à lever, les maisons là. Ce n'est pas n'importe quoi. Mais on met un tuyau qui sort du garage. Et quand on lave la voiture ou bien c'est quoi, tout ça là, ça sort de la maison et ça fend la route à pub. Et pour rouler même, ça tape le pneu. Les gens souffrent tellement. Et il y en a qui ont. Creuser et mettre le tuyau qui sort de la douche dans le carniveau. C'est ça, depuis là, j'ai dit, les mairies, là, depuis qu'elles sont là, ça fait 5 ans ou bien 6 ans. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Pourquoi on laisse des choses comme ça? Par le passé, ce n'était pas comme ça. Vous voyez? Maintenant, pour ce qui se passe, tout ça, là, comme l'autre vient de le dire, s'il n'y a pas l'alternance, là, actuellement, là, lui, il dit que les autorités souffrent. C'est tout le monde, tout le peuple togolais. Nous souffrons, sincèrement. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. C'est l'âme. Sans l'alternative, sans l'âme-là. Sincèrement, on peut donner Faure Gnassingbé 1000 ans. Il ne fera rien. Il va mourir un jour, laissé aussi comme ça. C'est pourquoi il faut faire un peu, qu'il laisse. Il y a des nettes. Chacun fait un peu.
Mais merci. C'est bon. Merci beaucoup, merci, Natima. Oui, merci pour votre intervention. Bonjour, Canal FM. L'Afrique est vraiment en retard pour ce qui concerne l'affaire d'assainissement. Comment pouvez-vous imaginer qu'en pleine ville et en plein milieu d'un marché, on peut déverser l'eau de toilette? Nous devons changer de mentalité pour éradiquer ce fléau. C'est André qui nous écrit depuis Dakar. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo. J'espère que vous allez bien.
Je vais bien, chef.
D'accord, allez-y.
Oui, notre fameuse constitution. J'ai écouté Victor FM ce matin. Vraiment, je me dis que seuls ceux qui sont irrigués par... ceux dont leurs cerveaux sont irrigués par la sève, et qui peuvent comprendre cette façon de changer une constitution. Sinon, dans les pays où les mentalités sont bien irriguées, je ne veux pas vous citer l'Amérique, le Ghana, que l'alternance favorise le développement. Hein? Vous voyez, chez nous aussi, on vient, on nous fait injurbiter, Manu Mitari, une condition à sur mesure que c'est adapté à nos réalités. Nos réalités, c'est quoi? Les grandes sociétés, c'est à qui? C'est à nos ministres, nos patrons, cette minorité qui s'est accaparée des biens de l'État pour non seulement ériger cette société, s'accaparer des villages. Mais s'ils ne font pas cette constitution pour rester habitat éternel, si quelqu'un prend le pouvoir, ça veut dire qu'ils vont tout perdre. Donc, c'est taillé sur mesure pour les oligarques, la minorité, ce n'est pas pour le peuple. Si le Diakouté là-bas, il a dit, sans voiler la face, La vérité, c'est que tout le peuple souffre, la grande majorité souffre. C'est cette minorité-là qui protège leur acquis. Bonne émission.
Merci pour votre intervention, M. Nyamavo. Bonjour le plateau, mais dire qu'on lance une campagne de sensibilisation par rapport à cette nouvelle constitution, c'est la charrue devant les bœufs. Or, le gouvernement avait dit avant la relecture, envoyer les députés vers la population pour les expliquer. Et maintenant, cette campagne, encore pourquoi? C'est Ibrahim qui nous écrit. Allô? Allô, bonjour. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô? Allô, bonjour.
Allô.
Décidément, oui, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Oui, comment vous allez?
Je passe au Patricia, le monsieur.
Oui, votre nom c'est?
Monsieur Kokou.
Monsieur Kokou, vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Nukafu.
Nukafu, allez-y.
Oui. Je veux savoir, les fondamentaux de notre position là, du quoi? Et du coup, changer la condition.
Allô, monsieur Kokou. Monsieur Kokou, oui. Il y a un bruit autour de vous et vous pouvez diminuer le volume. Oui, voilà, le volume de votre poste récepteur à côté de vous. Voilà, c'est allez-y. Bon. C'est bon, allez-y.
La condition dit pour changer le texte de nos conditions, il faut aller au référendum. Le texte n'a pas dit d'aller consulter le truc avant de venir changer quoi que ce soit dans la constitution. Est-ce que cela a été respecté? Il ne faut pas que les gens du Nid vont prendre le Togo en otage. Comme si le Togo appartient aux familles nationales. C'est pas bien. C'est pas bien. En écoutant un auditeur, le confrère sur la radio, FM aujourd'hui, là, maintenant, le député, l'honorable, avait déjà parlé. On dirait que c'est comme s'il avait pris le Parti uni a pris le Togo en autarcie. Vous voyez, c'est pas bien. Nous sommes tous depuis d'un seul pays. Qu'on s'assoit pour mettre tout en ordre. Comment faire RTV a eu à faire à la magistrature en 2005. Est-ce que vous avez tué? Est-ce qu'il a été jugé pour ça? Non. Il faut qu'on s'attache à un table ronde, on discute et on vient à un point commun. Merci, bonne journée.
Bonne journée à vous et merci pour votre intervention, M. Kokou, 90 86 35 35. Allô?
Parfois, je reviens comme ça pour. Peut-être que je vais terminer. Non, moi, je vous demande ce matin, le président de la République. Je ne sais pas pourquoi. Il ne veut pas gouverner pour le bien de la population. Ce Sénat, ces députés portés à 113, tout ça là, il est prêt à sauter sur ça. Alors que la population croupit dans la misère. Et, mais quand on dit qu'il s'en fout, quelqu'un me dit qu'il est sénateur, ce n'est pas ça. On vend le gaz à 2000 francs au Burkina. Il nous le vend ici à 5000 francs. Il s'en fout, ça. C'est ça, on dit, il s'en fout. Il n'a qu'à comprendre ça, monsieur Abakata. Il n'a qu'à comprendre ça.
Mais merci, c'est ça, on dit, on s'en fout. Merci beaucoup, Basile, pour votre intervention 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler et réagir dans l'émission Club de la Presse sur les différents sujets débattus ici au Club de la Presse, bien sûr. Nouvelle constitution, Pascal, ce n'est pas pour rien que le mot anticonstitutionnalité demeure le mot le plus long du dictionnaire. Tout part de la constitution et revient à elle dans une république. Passer d'une république à une autre, nuitamment, n'a rien de légal et bafoue le principe du parallélisme des formes. Toute entrave à la constitution est imprescriptible. Et ne l'oublions jamais, c'est Maglibé qui nous écoute depuis la Belgique, 90, 86, allô? 35, 35. Allô?
Oui, allô.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Votre nom, c'est?
C'est monsieur Dodi.
Monsieur?
Dodi.
Monsieur Dodi.
Oui, monsieur.
De Daravé?
Non, j'appelle de Didiolé.
Ah, vous appelez de Didiolé. Allez-y.
Oui, merci beaucoup.
Hey.
Je vous remercie pour le débat. Oui, et je voulais vraiment vous dire pour le, comment l'appelle-t-on, le problème de la salubrité, là.
Parce oui, l'assainissement.
On ne dirait pas qu'on a même une mairie. Bon, je crois que c'est le maire, monsieur Adabounou. Mais il n'y a rien chez nous. Et le bar, on a des bars qui nous gênent là-bas. Et ils font du n'importe quoi. Ils urinent même sur, et à côté chez nous. Nous parlons, ils ne veulent même pas. Ils nous insultent. Quand ils urinent sur la route, quand nous leur parlons, c'est des imbéciles. C'est toujours ça. Bon, on dirait même sur la route, même, et vraiment les caniveaux, tout récemment on avait tiré les caniveaux il y a 6 mois je crois. Maintenant quand vous allez, même depuis hier qu'il y a eu la pluie là, les caniveaux sont remplis. Il y a des déchets, rien que des déchets vers l'hôtel Concorde là. Vous allez vous étonner, on ne se croit pas l'homme. Mais vraiment, je vous remercie pour le débat quand même.
Merci beaucoup, Dodi, pour votre intervention. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Allô, je vous écoute. Allô? Vous êtes à l'antenne, bonjour.
Allô?
Décidément, il ne nous écoute pas, il n'a pas de retour. On reçoit un dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô? Allô, allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour, Papa Sibiti.
Bonjour, maître directeur.
Bonjour.
Vous voyez ce qui se passe? Nous disons les caniveaux bientôt, chez moi. Ça fait des années que je crie. Qui va venir s'en occuper? Le président, le ministre des TP. Secondo, ce que vous êtes en train de dire. Moi, je prie. Tout le peuple parle. Est-ce que les gouvernants, là, ils ne peuvent pas prendre soin de ce que la population dit? Moi, je leur demande d'écouter et de prendre en compte ce que les gens disent. Le président, s'il veut faire 100 ans, 1000 ans là-bas, pourvu qu'il satisfasse aux besoins des gens. Mais directeur, c'est ce dont moi je peux dire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre intervention. Et Papa Sibiti est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de ce lundi, lundi 24 mars, bien sûr, 2025. Alors, nous allons revenir en plateau et faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission de ce jour. Jacques, vous avez écouté les uns les autres se prononcer sur l'actualité. Votre réaction?
Non, je crois que, comme je l'ai dit tout au début, Pascal, c'est intéressant aujourd'hui que l'opposition puisse parler du dialogue et le parti également au pouvoir. C'est une ouverture, parce que nous sommes tous des Togolais et il sera bien que nous puissions nous entendre. Je l'ai dit tout à l'heure, vous savez Pascal, nous avons beaucoup de problèmes. Et le problème crucial dont je soulevais tout à l'heure, c'est la question de ce rapport, de l'occupation de ces djihadistes qui sont en train de progresser entre le nord du Bénin et le nord du Togo. Et un autre rapport qui parle du fait que nos compatriotes quittent le pays. Donc, c'est des sujets sur lesquels il faut tabler. Et ce n'est pas seulement un sujet qui concerne le gouvernement, ça devait concerner l'opposition, la société civile et le gouvernement. Il faudrait qu'on puisse s'asseoir et discuter. Parce que le Togolais, on peut s'entendre, Pascal. Il n'y a rien sur des sujets figés. Et je voudrais sincèrement inviter les uns les autres au sursaut patriotique pour que nous puissions trouver effectivement des solutions pour faire avancer notre pays.
Merci beaucoup, Jacques. Oui, Didier?
Oui, fondamentalement, je crois que... après, nous voulons tous la même chose pour le Togo. Qu'on soit opposant, qu'on soit au pouvoir, je crois que la logique voudrait que chacun cherche du bien pour le pays. Et donc, à partir de ce moment-là, pour que nos actions ne soient pas perçues comme dichotomiques les unes envers les autres et que les pas que les uns posent ne soient pas perçus comme contraires à ce que font les autres, c'était justement ce pourquoi les gens avaient lancé cet appel-là aux discussions dès le départ de cette histoire. Maintenant qu'on ne l'avait pas fait à l'époque, je pense qu'on devrait dérouler un agenda. L'agenda est déjà déroulé. Il n'est pas tard de revenir, comme les uns les autres ont dit. On dit à une table de discussion pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer ensemble pour que ça ne soit pas un problème qui se crée pour l'avenir de la nation. Parce que quand on parle d'une loi fondamentale, c'est comme nous le savons, c'est un contrat qui doit lier les Togolais entre eux. Mais si certains, c'est un contrat qui est là, mais certains ne se retrouvent pas dedans. Demain, quand on ne sait jamais, des gens pourront décider de remettre les choses, à moins qu'on pense que les choses seront toujours comme ça et toujours comme ça. On ne peut pas prédire l'avenir autant sur des années. Donc du coup, des ouvertures sont là, il faut que ces ouvertures soient saisies. pour que des améliorations, si possible, puissent être apportées. Et de l'autre côté, comme on le dit, les défis sont urgents. Et pour les mairies, par exemple, en matière d'assainissement, nous avons émis beaucoup d'idées ici. Malheureusement, nous sommes dans un pays où les hommes des médias sont moins écoutés. Mais nous sommes dans le bas peuple, nous savons beaucoup de choses. Beaucoup de problèmes de nos sociétés, nous les connaissons. Et nous avons proposé beaucoup de solutions ici à cette histoire d'assainissement-là. Ça ne va pas se résoudre à quelques opérations politiques de Togo propre, mais il faut qu'on implémente les propositions que nous faisons ici. On aura un mieux-être chez nous, dans les quartiers, dans les localités du pays, et ce sera bien pour tout le monde.
Merci Didier. Oui, Gosson.
Oui, d'abord, j'ai remarqué avec enchantement qu'il y a un dénominateur commun dans tous les appels que tu as reçus. Et pourtant, tous vos numéros sont ouverts à tout le monde. Normalement, je m'attendais à ce que les gens appellent et critiquent, par exemple, nos points de vue. Mais apparemment, c'est comme si nous naviguons sur un même bateau. Ça, c'est le premier point. Parlant de l'assainissement, je veux demander, en tant que conseiller virtuel de notre président de la République, que les mairies qui ont beaucoup de bars...
Qui t'en nomment.
Je me suis nommé.
Dis que tu t'es autoproclamé.
Qui ont beaucoup de bars au bord des routes. Et au bord de ces routes, il y a des rigoles avec des interstices. Il serait temps qu'on ferme ces interstices-là et qu'on enjoigne ces bars à disposer de toilettes en bonne et due forme. Parce que quand les gens sortent les nuits, après la cuvée de la bière, pissent le lendemain. C'est nauséabond pour les riverains. Donc, c'est très important. Seulement, je regrette aujourd'hui que, d'abord, que Rollis, ne soit plus de ce monde et qu'il n'ait pas été président, notre président, puisque c'est lui qui dit la constitution que le Ghana applique là. Ils l'ont faite de manière à ce que, même si le diable venait à prendre le pouvoir au Ghana, il ne pourra pas y toucher. Si le Togo en avait de pareil, il n'y aurait pas ces problèmes.
Merci,
on peut
Gosson.
Avoir une constitution
merci.
Comme ça. Donc,
merci. Oui, mais merci.
Le rêve est permis.
Merci beaucoup, Gosson, d'être passé alors dans cette émission. Je rappelle que vous êtes journaliste au journal Liberté. Merci à Didier et à Sogba d'être passé aussi dans cette émission. Vous êtes directeur de publication du journal en ligne Togo Breaking News. Merci à Jacques Diakouti, journaliste, analyste politique. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve demain, mardi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.